Dans une phrase comme « Le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, réhabilite Philippe Pétain », dans une phrase comme celle-ci, il y a au moins une information. Bon, le fait que Le Pen soit pétiniste, ça n'est pas vraiment un scoop. En revanche, le fait que le Front National ait un président d'honneur, c'est un peu comme si le Parti communiste avait un PDG. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, c'est cette semaine que le résistant Jean-Louis Crémieux Brillac nous a quittés. Une double peine, la mort de cet homme lumineux et le fait que l'idée pétiniste lui survive. Le président d'honneur du Front National est pétiniste. Pétiniste et honneur, deux mots qui vont très mal ensemble. Quand on se souvient que la résistance est d'abord pensée comme un mouvement qui voulait, je cite Malraux, maintenir l'honneur de la France comme un invincible songe. La résistance était une force militaire réelle, mais surtout une puissance symbolique sans limite. Il faudra un jour que l'on m'explique comment un parti qui se réclame du nationalisme, le Front National, peut composer avec le personnage qui symbolise la fin de la nation, Philippe Pétain. Comment 70 ans après la guerre, l'idée que Pétain ait pu être le bouclier de quoi que ce soit, comment cette idée peut-elle encore se défendre maintenant que plus aucune rafle et plus aucune exécution ne nous est inconnue? Comment peut-on encore être pétiniste? La preuve que toutes les batailles ont été remportées, bataille de Londres, bataille des Ardennes, seule une bataille demeure, hélas, encore en suspens, la bataille des idées.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Une toute autre bataille, maintenant la bataille du citoyen face à l'administration. Pour en parler, je suis tout d'abord en compagnie de Vincent Lewandowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du pôle promotion des droits des usagers des services publics et réforme pour le défenseur des droits. Et vous nous expliquez comment fonctionne le défenseur des droits et comment le saisir lorsque justement on est en litige avec l'administration. À côté de vous se trouve Estelle Guilherme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante d'une société qui s'appelle Familizen. .fr qui peut assister justement les particuliers dans leur démarche vis-à-vis de l'administration. Et puis enfin, Paul Cassia, bonjour. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Sorbonne. Vous dirigez le département d'études juridiques générales. Paul Cassia, on parle de la sécurité sociale, on parle des impôts, on parle de l'hôpital, de la caisse des écoles. Et on se dit, bah finalement, c'est l'administration. Le juriste que vous êtes reconnaît-il l'administration derrière ces différentes entités?
Alors, comme vous le dites, Guillaume, le mot administration recouvre en réalité des réalités très diverses. L'administration, ce sont l'ensemble des services d'une personne publique qui sont destinés à la faire fonctionner. Une administration est composée de personnes, comme vous et moi, qui ont la qualité soit de fonctionnaires, soit d'agents contractuels et qui sont chargés de répondre aux demandes des usagers, qui sont chargés de préparer les décisions de cette administration et qui sont chargés de traiter les affaires courantes. Donc une administration, ça recouvre des réalités très différentes. Une administration, c'est comme une poupée russe. Il y a à l'intérieur d'une administration différents services, une hiérarchie. Et l'objectif d'une administration, eh bien, c'est de satisfaire les raisons pour lesquelles elle existe et qui sont très diverses selon sa nature.
Alors, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant, d'anxiogène, lorsqu'on évoque l'administration, lorsqu'on est un particulier, parce qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre. Je considère Paul Cassia à tort que vous me devez de l'argent, je ne vais pas réussir à piquer dans votre portefeuille, sauf bien entendu à être un voleur. En revanche, si l'administration, notamment le RSI, on évoquera ce drame pour beaucoup de petits entrepreneurs, décide que vous lui devez de l'argent, il peut saisir de manière unilatérale, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois en tant que citoyen, il peut saisir l'argent qui est sur votre compte et c'est là où les problèmes commencent.
Oui, alors ça, vous traitez une question qui est un peu délicate, qui est celle des finances, mais ce n'est pas la question qui est traitée au quotidien par l'administration. L'administration, elle dispose d'un privilège, un privilège du préalable, elle représente la puissance publique, donc à cet égard, elle bénéficie de certaines particularités. Et en effet, elle peut imposer certains comportements aux citoyens que nous sommes. Alors ces comportements des citoyens peuvent ne pas être légaux, mais ces comportements, ils peuvent être aussi abusifs. Et il appartient, le cas échéant, au juge de décider qui a raison, qui a tort. Mais c'est vrai que l'administration dispose de prérogatives que le citoyen n'a pas. Et le citoyen doit se plier à ses prérogatives et les contester a posteriori.
La première réponse que l'on peut apporter à tous les citoyens qui nous écoutent et qui sont en litige avec l'administration, c'est bien entendu le défenseur des droits. Vous le représentez ici, Vincent Lewandowski. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le défenseur des droits et comment le saisir lorsqu'on est en litige avec lui?
Tout à fait. Donc le défenseur des droits est une autorité administrative
indépendante de rang constitutionnel qui est née de la réunion de quatre ex-anciennes institutions qui sont le médiateur de la République, la haute autorité de lutte contre les discriminations et de l'égalité, la CNDS et le défenseur des enfants. Alors concrètement, lorsque vous vous estimez victime d'un problème avec l'administration, vous pouvez effectivement saisir le défenseur des droits qui est compétente dès lors que vous vous estimez lésé dans vos droits et libertés de la part d'une administration d'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou de tout autre organisme investi d'une mission de service public comme la SNCF, une CEPAM, le RSI ou une CAF.
Alors il y a toute une série de raisons pour lesquelles on peut saisir le défenseur des droits si on veut par exemple obtenir une bourse tandis que l'on est étudiant et l'on a du mal à en obtenir une, si l'on conteste une amende qui a été infligée par un contrôleur SNCF, si on estime que l'on a eu tort, que l'État a eu tort de vous retirer les points du permis de conduire, comment à chaque fois saisir le défenseur des droits, Vincent Lewandowski ?
Alors, la saisine du défenseur des droits est une de nos grosses préoccupations pour pouvoir toucher le maximum de gens et de la façon la plus simple possible. Donc, premier élément d'information, tout le monde peut saisir le défenseur des droits, que vous soyez de nationalité française ou non. Seulement, il faut bien évidemment que le litige soit né en France. Deuxième chose, vous pouvez saisir le défenseur des droits de la façon la plus simple, par l'intermédiaire d'un courrier adressé directement au défenseur des droits ou sur le site du défenseur des droits, donc défenseurdesdroits.fr sans accent, tout attaché bien évidemment, où vous trouverez un formulaire en ligne qui a été pensé pour être le plus simple possible, où vous décrivez en quelques mots ce qui se passe, les difficultés que vous rencontrez, et nous vous répondrons le plus rapidement possible.
Alors que vous soyez peau de terre ou peau de fer, si vous avez des problèmes avec l'administration, ou si vous êtes vous-même l'administration, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à utiliser notre compte Twitter Service Public FI. Vous n'êtes pas tout seul, comme le chante Philippe Catherine, un disque choisi par Thierry Dupin, avec Olivier Bétard à la réalisation.
Service Public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
clope du paquet, comme la dernière frite du cornet.
Service public sur France Inter, le citoyen face à l'administration. Et moi, je suis face à Maître Paul Cascia, qui est professeur de droit à l'université Paris 1 Sorbonne, à Vincent Lewandowski, qui représente ici le défenseur de droit, des droits, pardon, Estelle Guilherme, qui a développé la société familizen.fr, une société destinée à aider le citoyen dans ses démarches vis-à-vis de l'administration. Expliquez-nous en quoi consistent les services offerts par familizen.fr, Estelle Guilherme.
Alors, nous sommes une société de service à la personne. Donc, nous intervenons pour le particulier, à domicile, pour l'aider dans toutes ses démarches administratives, toute sa paperasserie. Et bien souvent...
Par exemple, si on a une phobie administrative,
oui,
vous pouvez...
c'est classique. C'est parfait. La phobie administrative, c'est notre cœur de métier, je dirais.
Et alors, vous venez, vous vous occupez de tous les papiers ?
De tous les papiers,
par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et pour combien ? Puisque j'imagine, Estelle, que vous vous faites payer.
Oui, on n'est pas encore arrivé dans le bénévolat, mais effectivement,
ça va bientôt venir.
Nous ouvrons le courrier de nos clients, on regarde exactement de quoi il s'agit, des relevés de banque, des factures, des courriers à faire pour les différentes administrations, des dossiers MDPH, voilà.
M quoi ?
MDPH, c'est pour les handicapés. Pour faire des dossiers d'handicap, de demande d'handicap. Et puis, nous pouvons aussi aller dans les administrations pour demander un enregistrement à la CPAM, pour contester le RSI, pour aller voir les impôts pour
Alors,
les clients.
Comme vous n'êtes pas bénévole, pas encore bénévole, Estelle Guilherme, quand on veut utiliser les services de familizen.fr, quelle somme faut-il prévoir ?
Alors, il faut prévoir une moyenne de 40 € de l'heure. Donc, ça varie entre 35 et 45 suivant les services. C'est défiscalisé à hauteur de 50% et on travaille soit au forfait, soit à l'abonnement, soit au ponctuel.
Nous avons Eve-Marie au standard. Bonjour Eve-Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, je vous écoute et nous écoutons votre question, votre témoignage, Eve-Marie.
Okay. Donc je vais essayer d'être concise. Je suis artisan d'art. Il y a quelque temps, j'avais un statut entreprise individuelle. Je cotisais au RSI, de manière classique. Puis d'un coup, les cotisations ont triplé, sans que mon chiffre d'affaires, lui, ait triplé. Donc j'ai décidé de passer en auto-entrepreneur, puisque mon chiffre d'affaires me le permettait encore. Je me suis aperçue à un moment donné que le RSI était quand même une nébuleuse vraiment obscure et plutôt sans scrupules. Je suis un petit peu de parti pris, mais j'ai de bonnes raisons. Et par la suite, après en avoir parlé autour de moi, je me suis rendu compte que dans mon entourage, beaucoup de personnes subissaient beaucoup de problèmes avec le RSI, des questions jamais, sans jamais avoir de réponse, des appels de cotisation complètement hallucinants. Et du coup, moi j'en suis venue à me poser une question tout bonnement, à quoi sert le RSI et pourquoi les artisans et certains indépendants qui dépendent de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce ne peuvent pas être sous le régime général, la sécurité sociale classique, et à quoi sert le RSI au final, puisque moi j'ai pu éviter les...
Vous avez pu vivre sans le RSI et maintenant que vous devez vivre, hélas, avec le RSI, vous dites que finalement c'est une position beaucoup plus importante et beaucoup plus inconfortable qu'auparavant. Et c'est effectivement une question que beaucoup de gens posent au standard. Merci Eve-Marie de la poser. Alors, première question, qu'est-ce que le RSI ? C'est un organisme qui est apparu récemment et un organisme qui génère une quantité innombrable de problèmes. Paul Cascia, parlez-nous du RSI un petit peu.
C'est un peu délicat pour moi de parler du RSI. Et il se trouve que je cotise également au RSI puisque j'ai moi-même, par ailleurs, en plus de mes fonctions universitaires, j'ai une entreprise individuelle et que je suis aussi cotisant au RSI et que, comme madame qui vient d'intervenir, je dois aussi régler des cotisations.
À quoi sert le RSI ?
Alors, bon, le RSI, c'est un régime qui permet de cotiser pour ceux qui ont une entreprise individuelle de façon à assurer une retraite lorsque cette entreprise n'aura plus lieu d'être et au moment où il sera possible de prendre la retraite. Donc c'est un organisme de prévoyance. Alors le montant des cotisations est peut-être excessif, c'est pas à moi de le dire. La fréquence des cotisations est peut-être excessive. Peut-être qu'il n'y a aussi pas suffisamment de rapport entre les honoraires perçus et les cotisations versées, ça c'est évident. Mais il n'empêche que le RSI est une administration qui peut apporter les réponses aux questions que pose madame. Et il y a plusieurs moyens pour cela.
Alors, a priori, à l'origine, le principe du RSI était un principe plutôt louable. Il s'agissait de centraliser un certain nombre de cotisations, notamment pour des petits entrepreneurs qui, du coup, avaient moins de paperasse à faire. Et puis, la machine s'est un peu emballée. Et aujourd'hui, on peut dire que le RSI est devenu quelque chose comme un monstre, Estelle Guilherme ?
Ah oui, c'est un monstre, hein, c'est bien défini. Alors pour continuer la conversation de la dame, effectivement, ça triple, les cotisations triplent dans les 3 ans. Elle a peut-être bénéficié de l'ACRE la première année, donc une cotisation à hauteur de 7%, deuxième
alors,
année
l'ACRE,
14%.
C'est une aide qui est apportée aux créateurs d'entreprises et qui, une fois que l'entreprise est créée, eh ben, n'est plus apportée.
Voilà, et donc qui permet de réduire les cotisations et puis on arrive à la troisième année sans l'avoir prévu avec une grosse claque dans la figure. Mais effectivement, quand on crée, il vaut mieux se préparer à ça et mettre de côté puisque le RSI a 2 ans de décalage. Donc effectivement, il y a toujours, on se prend vraiment une baffe en travers la figure.
Et ouais. Je dois dire que nous avons été alertés par un grand nombre d'auditeurs sur les problèmes causés par le RSI. C'est la raison pour laquelle notre reporter Lénora Krief est allée rencontrer une personne qui a été victime de ce RSI. Cet homme a été salarié pendant près de 20 ans dans une multinationale. Il se prénomme Michel. Il a créé sa propre société de prestations et de développement informatique à Paris en 1996. Assailli par les cotisations du régime social des indépendants, il s'est vu contraint de déposer le bilan après 16 ans d'activité. À 66 ans, cet ancien chef d'entreprise se trouve actuellement en procès avec le RSI pour réclamer la mise à jour de ses droits à la retraite.
Aujourd'hui, j'ai un conflit, une situation conflictueuse avec le RSI pour des raisons donc de gestion de mon dossier et de rapprochement comptable entre ce qu'ils me doivent, ce que je leur dois, ce que j'ai payé et ne pas payé. Donc j'ai eu quelques difficultés au sein de l'entreprise entre 2007 et 2010. Et forcément, quand on a des difficultés d'entreprise, on se bagarre beaucoup plus pour essayer de trouver des clients et faire du business que de répondre à l'administration ou d'aller courir derrière l'administration pour justifier telle ou telle pièce comptable ou tel paiement. Aujourd'hui, je suis arrivé à une situation en retraite à toucher un peu moins de 500 euros pour avoir payé pratiquement durant toute cette période pas loin de 100 000 euros. Et aujourd'hui, on me réclame pas loin de 100 000 euros. Parce que quand, pour une raison X, soit vous avez retardé, soit vous n'avez pas envoyé votre déclaration, soit votre déclaration est ceci et cela, on vous impose d'office sur la base de N-1 ou N-2. Donc si vous, une année, vous avez gagné 100 et l'année d'après, vous avez gagné 50, on vous impose sur les 100 et pas sur les 50.
Et aujourd'hui, vous avez fait appel à un avocat ?
Aujourd'hui, j'ai fait appel à un avocat parce que c'est quand même un système assez complexe. On écrit, on ne vous répond pas. Vous envoyez X-lettres, même en lettres recommandées. Et puis, en réponse, vous avez l'huissier qui débarque avec ses gros sabots. Et c'est souvent le cas. L'huissier, ben, lui, il vous dit, moi, je suis mandaté pour récolter telle somme. Vous payez ou alors je viens pour la saisie, etc. Surtout, le problème, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. On n'a pas d'interlocuteur, autant l'URSSAF qui sont un peu plus rigides mais peut-être mieux organisés. En tant qu'entreprise, on arrive quand on a des difficultés à discuter avec l'URSSAF, à trouver des arrangements, des échéanciers, etc., voire des abattements. Mais là, on n'a personne. On appelle, vous avez quelqu'un donc, qui est derrière un pupitre qui vous donne quelques informations puis c'est terminé. Et par contre, dès que la date d'un paiement arrive, on vous envoie l'huissier et qui lui dit bah, écoutez, vous payez.
Ces cotisations erronées, elles vous ont poussé à déposer le bilan ?
Non, en fait, tellement pas forcé à déposer le bilan. Mais vous savez, c'est quand vous êtes stressé par l'administration d'un côté, les activités business d'un côté, ce stress génère un problème de réflexion, de positionnement. Donc on est un peu perturbé. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation-là, forcément, là, vous n'avez pas la tête à faire votre business ou à aller chercher de nouveaux clients. Alors si vous devez vous occuper de l'administration et tout ça, c'est pas bon, ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus aller de l'avant et vous dites, bah, écoutez, stop.
stop avant que le bateau coule et on fait appel à l'administration, au tribunal pour arrêter la société ou pour... Voilà ce qui arrive dans la majorité des cas. Hein. Aujourd'hui, le RSI, c'est un régime des indépendants, moi je dirais des incompris.
Qu'envisagez-vous si le jugement n'est pas en votre faveur ?
Je sais que le tribunal, de toute façon, c'est d'après ce que j'ai pu entendre et écouter de part et d'autre, c'est intransigeant. C'est leur objectif, c'est vous payer. Le reste, ils n'écoutent pas. Et je suis pas rassuré. Et à mon âge, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller rebousser à droite et à gauche, essayer de combler les... Je sais pas.
Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir monté votre entreprise ?
Non, regretter non, parce qu'il y a une satisfaction personnelle de pouvoir dire... J'ai réussi à partir de zéro, j'ai créé l'entreprise, je me suis fait plaisir. Mais quand vous avez traîné un boulet au pied pendant des années et qui s'appelle l'administration, là, vous n'avez plus envie de recommencer. Et croyez-moi, j'ai plus de 66 ans et je pense à ces jeunes qui démarrent, qui en plus n'ont pas notre expérience. Hein, la tête un peu... Dans le guidon, à mon avis, ils vont encore souffrir beaucoup plus que nous si l'administration ne joue pas son rôle d'accompagnateur.
Le reportage de Lénora Krief, on entend les difficultés de Michel, des difficultés auxquelles vous pourriez éventuellement répondre, Vincent Lewandowski, vous qui représentez ici le défenseur des droits.
Alors, bon, ne connaissant pas dans le fond le dossier de Michel, je peux évidemment pas directement me prononcer sur le cas de Michel. Je peux me prononcer d'une manière générale sur ce que je pense de cette situation. Et me semble-t-il, il y a derrière un problème de déshumanisation de l'administration génère un certain nombre de problématiques il peut y avoir derrière l'administration une faute ou pas de faute, mais en tout cas il y a ça génère des difficultés pour l'usager. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que les problématiques de protection sociale sont le premier motif ou la première cause de saisine du défenseur des droits. Nous sommes très 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 régulièrement appelés à intervenir auprès du RSI. Et alors, j'invite Michel. Peut-être que nous ne pourrons pas intervenir ou nous ne pourrons intervenir qu'à la marge sur son dossier. Encore une fois, je ne connais pas le dossier de Michel, mais en tout état de cause, j'invite les gens qui se trouvent dans cette situation à nous saisir, alors, soit directement au siège, soit notre réseau de délégués qui se situe, nous disposons d'un réseau de 400 délégués qui se situent dans près de 500 points d'accueil accès aux droits situés sur l'ensemble du territoire français, en mairie, en préfecture, et la saisine est totalement gratuite.
Paul Cassia, vous qui êtes juriste.
Oui, monsieur Lewandowski pose une bonne question, celle de l'absence, l'insuffisance des moyens en personnel des administrations. Et c'était l'objectif des différents gouvernements qui se sont succédés, de réduire le nombre des agents. Et peut-être que cette politique n'était pas la bonne. C'est peut-être là d'abord le premier problème. Second problème, c'est qu'il faut 3 minutes pour être chef d'entreprise, 3 minutes pour créer une entreprise. Mais créer une entreprise, ça engage. Et on peut être excellent entrepreneur, mais ne pas savoir comment gérer au quotidien, oui, cette entreprise. Et c'est un métier que de gérer une entreprise, je le dis parce que j'en ai une. Quand on ne sait pas le faire, il faut déléguer soit à Madame Guilherme, soit à un expert comptable. Donc créer une entreprise, ça implique des obligations comptables et fiscales qu'il faut être à même de satisfaire, autrement on se fait conseiller avant d'avoir des difficultés.
Allez, on continue, peau de terre contre peau de fer, et c'est pourquoi on écoute Porcelaine Moby.
We'll be right back.
Service public sur France Inter, le citoyen contre l'administration. Nous avons une citoyenne au standard, Rose, qui nous appelle de Lyon. Bonjour Rose.
Bonjour.
Nous vous écoutons Rose.
Ben voilà, moi je suis en arrêt maladie suite à un cancer et j'ai une situation de travail avant cancer un petit peu particulière puisque j'ai 29 employeurs, mais c'est une situation en fait très simple, mais c'est le nombre qui fait un petit peu peur. Et à cause de ce nombre d'employeurs, depuis un an et demi maintenant que je suis en arrêt maladie, j'ai eu 7 fois des interruptions de mes indemnités. En fait, chaque fois que quelqu'un tombe sur mon dossier, ce 29 employeurs doit faire très peur. Et chaque fois que j'appelle, on me dit qu'on ne peut rien faire parce que c'est trop compliqué et qu'un supérieur va me rappeler. Le supérieur ne me rappelle pas. Et donc, la situation est très complexe. C'est vrai que quand on est en chimiothérapie, qu'on est vraiment faible, c'est dur de faire toutes ces démarches. C'est vraiment pas simple. Et j'ai la chance d'avoir une amie qui m'a aidée. Et un jour, par hasard, je suis tombée sur une comptable, parce qu'on m'a mal aiguillée au standard. Je suis tombée sur une comptable à la Sécurité sociale qui, elle, au miracle, a compris ma situation. Et depuis, chaque fois que je suis bloquée, j'appelle la comptable qui va voir sa collègue, qui lui explique, et mes indemnités sont remises.
Mais alors, aujourd'hui, est-ce que vous considérez, Rose, que votre problème est résolu ou bien faut-il
oui,
encore...
Oui, il est résolu, mais ce que vous disiez précédemment est vraiment intéressant. C'est-à-dire que oui, il manque peut-être de personnel, mais peut-être aussi que le personnel manque d'écoute et d'humanité, probablement parce qu'ils sont submergés. Mais je voulais dire, voilà, le témoignage, il était dans ce but-là, dire quand on est vraiment dans une situation de maladie, c'est pas une situation de complication dans une entreprise, c'est juste une situation très dure à gérer physiquement et on peut pas se battre. C'est ça. On n'arrive pas quand on n'a pas autour de soi 3000 personnes qui vont vous aider à vous battre. Donc, c'est pas évident dans ce contexte-là de faire face. Et si quelqu'un ne prend pas votre dossier en charge, comme la dame qui expliquait ses services, eh ben, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire.
Merci Rose, bon courage. Justement, je me tourne vers Estelle Guilherme qui dirige FamilyZen, donc cette société qui se propose d'aider les particuliers dans leur démarche vis-à-vis de l'administration.
C'est exactement ce que vit Rose au quotidien. Nous avons beaucoup de clients qui sont soit fatigués par une maladie, soit handicapés pour diverses raisons. Et nous n'avons pas la solution miracle, nous acharnons. Nous allons plusieurs fois dans les administrations, au téléphone, de visu, et nous continuons jusqu'à obtenir le résultat. Donc la différence de Rose, on a la santé pour, et du coup on lâche pas.
Mais justement, Elisabeth n'est pas contente puisqu'elle dit qu'elle a eu différents problèmes avec le fisc et du coup qu'elle trouve que l'administration fonctionne mieux que l'on l'a dit au départ puisqu'elle a réussi à obtenir gain de cause avec le fisc. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Vincent Lewandowski, qu'il y a eu des progrès dans ce domaine ? Est-ce que par exemple l'administration fiscale est plus réactive qu'elle ne l'était auparavant ?
Alors, l'administration, d'une manière générale, essaye d'être plus réactive, engage des efforts en matière de simplification. Vous avez un vaste mouvement de simplification administrative qui a été lancé par le gouvernement il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Des travaux qui sont entrepris par le secrétariat général. Donc, l'administration progresse. Reste que la complexité administrative au quotidien demeure. Reste que les problématiques de déshumanisation de l'administration au quotidien demeure avec un certain nombre de problématiques type la dématérialisation des services publics.
Qui est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors c'est une mauvaise chose lorsqu'on n'est pas du tout à l'aise avec les outils numériques, parce que lorsqu'on aura l'obligation de passer par Internet pour faire une déclaration d'impôt, ça va être une catastrophe pour tous ces gens, j'en connais beaucoup, qui manient mal l'ordinateur.
Pour probablement 70% des gens, c'est une très bonne chose, puisque ça va permettre un accès facilité à l'information, ça va permettre d'éviter les échanges de courriers. Donc il y a un côté extrêmement positif avec la dématérialisation. Reste qu'un certain nombre de gens n'ont pas accès à l'ordinateur, la fracture numérique existe, et qu'un certain nombre de gens sont sacrifiés quelque part sur l'autel de la dématérialisation.
Nous avons Elisabeth qui nous appelle des Poitou-Charentes. Elisabeth, bonjour, nous vous écoutons.
Oui, bonjour et merci d'avoir pris mon appel. Alors écoutez, l'appel que je fais ne me concerne pas particulièrement, mais concerne en fait le problème qu'a rencontré ma belle-mère, qui est une femme âgée de plus de 92 ans, qui jusqu'à maintenant continue à tenir ses affaires elle-même, et finalement c'est un peu une raison de vivre aussi, d'autant qu'elle le faisait très bien jusqu'à maintenant. Mais bon, il y a une vingtaine d'années, elle a mis en location, après l'avoir fait arranger, un appartement et un petit commerce suite au décès de ses parents. Et cette année, lorsqu'elle a voulu faire sa déclaration de TVA et son paiement, qu'elle avait l'habitude de faire par courrier, elle s'est vue refuser de le faire par courrier et obligée de le faire par Internet. Alors évidemment, elle a été complètement perturbée. Bon, mon mari a essayé de l'aider, mais elle voudrait continuer à le faire par courrier jusqu'à la fin de ses jours, en fait.
Évidemment.
Enfin, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus s'occuper. Et elle n'a pas l'intention d'acheter un ordinateur, vous imaginez bien.
Évidemment. Voilà. Et on comprend effectivement les difficultés que tout cela peut poser. Paul Kasia, est-ce bien raisonnable sur le plan juridique ? N'y a-t-il pas un problème d'égalité des citoyens face au droit ? S'il faut commencer à avoir un ordinateur et savoir manier Internet pour mener à bien un certain nombre de démarches, est-ce que ça ne pose pas des problèmes aux juristes que vous êtes ?
Pour l'instant, les administrés ont le choix. Soit de saisir, dans la plupart des cas, soit de saisir l'administration par la voie classique, courrier, recommandé, soit par la voie Internet. Internet présente des avantages considérables.
Ça, on n'en doute pas.
Considérables, y compris pour les usagers. Alors c'est vrai qu'il y a des cas particuliers, en particulier pour les personnes âgées, pour qui c'est sans doute compliqué. Mais je vois que...
Pas que pour eux d'ailleurs, mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à se saisir d'un ordinateur et à se connecter à Internet.
Il se trouve que je travaille au quotidien avec des étudiants, avec des parents d'étudiants, qui n'hésitent pas à me saisir par Internet, y compris le week-end, y compris à des heures indues. Et je réponds à ces demandes, et mes services, enfin les services du département que je dirige répondent à ces demandes par retour de courriel. Donc ces réponses immédiates, qui sont en général motivées et justifiées, doivent être perçues favorablement par les administrés, y compris si la réponse est négative, au moins est-elle motivée. Donc l'Internet présente l'avantage, d'une part, de marquer qu'on a bien saisi l'administration, et d'autre part, de permettre à celle-ci de répondre de manière commode et rapide aux questions qui lui sont posées.
Estelle Guilherme, aider les personnes âgées qui sont mal à l'aise avec Internet, cela fait partie également de votre métier ?
Ben oui, bien sûr, les personnes âgées se sentent complètement à l'écart de la société aujourd'hui. Ils nous demandent de venir avec les outils qui vont bien, donc on se déplace avec nos petits ordinateurs pour faire les déclarations nécessaires. Mais effectivement, jusqu'à aujourd'hui, on a encore la possibilité de le faire en version classique papier. Donc pour pour l'instant, on n'est pas encore contraint. Après, bon, cette dame a peut-être eu une déclaration de TVA obligatoire sur Internet, tout comme un expert comptable le fait. Mais en tout cas, dans la vie quotidienne classique, normalement, on peut encore le faire sur papier.
Nadia est au standard, elle nous appelle de Paris. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Nadia.
Oui, en fait, donc moi je vous téléphone parce que en fait, il y a 2 ans, on a fait une demande de place en crèche dans notre mairie. Et donc, cette place nous a été refusée pour certaines raisons et que nous n'avons pas comprises. Et donc, du coup, depuis 2 ans, on demande à être reçu lors des permanences de l'élu petite enfance de notre arrondissement. Sauf que depuis 2 ans, tous les rendez-vous que nous avons demandés ont été systématiquement refusés. Donc, on a écrit aussi, du coup, au maire de Paris, qui nous a dit que en fait le maire de Paris n'avait aucune influence sur les mairies d'arrondissement. Donc nous, on se retrouve coincés parce que clairement, on pense que des choses ne sont pas claires sur l'attribution des places en crèche dans notre arrondissement, en l'occurrence le 19e. Et à chaque fois qu'on a demandé des rendez-vous pour obtenir des explications, on n'a jamais eu de retour. Et en fait, à chaque fois, ça a été refusé. Donc aujourd'hui, moi je voudrais savoir, quand on a ce type de problème, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que du coup, on peut se tourner vers personne.
Nous, on a écrit au maire. Ne quittez pas, je vais vous passer le défenseur des droits, Vincent Lewandowski. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Nadia ?
Bon, alors, il y a d'une manière générale, bien évidemment, un problème d'accès aux places en crèche en France. Il n'y a pas assez de places en crèche. Bon, ceci étant posé...
Nadia n'arrive pas à obtenir un rendez-vous.
Tout à fait.
Il y a au moins suffisamment de rendez-vous pour qu'on reçoive Nadia.
Il y a pour le moins des modalités d'accès pour obtenir un rendez-vous. Alors, Derrière ça, il y a deux problèmes. Donc, d'une part, un problème de motivation des décisions administratives, de clarté des décisions administratives, qui, me semble-t-il, encore une fois, au regard des informations qui sont portées à mon attention dans le cas du témoignage de Nadia, sont peut-être légères. Bon. Deuxièmement, sur l'accès, l'obtention d'un rendez-vous, oui, bah, évidemment que cette dame nous saisisse et on tentera de lui obtenir un rendez-vous dans les meilleurs délais afin qu'elle soit informée, puisque me semble énormément de litiges ou de contentieux peuvent être désamorcés par une simple information.
Nous avons Laurence au standard. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour. Je vais essayer d'être concise. Moi, je vous appelle parce que je travaille à mon compte. En fin 2013, début 2014, j'ai été amenée à changer de statut. Donc, je suis passée du statut d'auto-entrepreneur au statut d'artiste de la Maison des Artistes. Mmh. J'ai fait les démarches nécessaires pour vis-à-vis de l'URSSAF être en règle. Je les ai appelés plusieurs fois, ils m'ont raccroché au nez.
Ah bon ?
Donc oui, parce que ça, visiblement, ils n'avaient pas envie de répondre à mes questions. Donc je suis allée voir mon comptable désespérée pour lui dire qu'est-ce que je fais. Donc après de multiples recommandés, l'URSSAF m'a quand même envoyé les appels de cotisation. Que je ne leur devais pas, je les devais à la Maison des Artistes. Et ça s'est fini qu'en juillet, ils m'ont envoyé deux contraintes de payer par huissier. Donc, avec tout le stress que ça entraîne.
Bien sûr.
Et puis, pour finir, ils ont reconnu qu'ils avaient tort, que je ne leur devais rien. J'ai quand même dû payer les frais d'huissier, sinon ils relançaient la procédure.
Est-ce que ces frais d'huissier sont restés à votre charge après la procédure, donc procédure abusive, semble-t-il ?
Oui, j'attends que l'URSSAF me les rembourse, mais visiblement, ils n'ont pas l'air très pressés de me les rembourser.
Eh bien, je vous envoie immédiatement Maître Cassia, qui va trouver une solution, je l'espère. Maître Cassia.
En général, ces procédures de contrainte à paiement, elles sont précédées de rappels de cotisation de la part de l'organisme qui les demande. Donc l'huissier, c'est vraiment la dernière extrémité et l'administration ne l'envoie pas sans préavis. Par conséquent, il y a quand même une manière à éviter ces frais d'huissier. Je ne connais pas, bien entendu, la situation que vous décrivez. C'est vrai qu'il y a...
Attendez-moi, je vais défendre Laurence, Maître Cassia. Laurence, apparemment, n'avait pas à régler cette somme et elle dit que les frais d'huissier restent à sa charge. Est-ce normal ?
Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que Nadia avait la possibilité de payer ses cotisations avant et puis de contester ensuite le paiement de ses cotisations. Mais si elle ne le fait pas, l'administration est en droit de réclamer, y compris par des moyens d'exécution d'office, d'envoi d'huissier, et que ses cotisations soient versées.
On écoute Baden, j'ai plongé dans le bruit. Et tout de suite après, on continue à évoquer les problèmes du citoyen face à l'administration.
Regardez tout bas. plongeais dans le bruit pour oublier tout ça. Je plongeais dans le bruit pour oublier tout ça. Tout sera anormal en ne regrettant rien. On se dira du mal qu'on n'est pas comédien, qu'on est même un peu pâle. On a horizontal qui nous faisait du bien. Tout deviendra vital et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. J'ai juré sur l'honneur tous des milliers de fois. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai plongé dans le bruit pour oublier tout ça. J'ai revu la candeur qui se cachait là-bas. L'air flemme des formes en des milliers de fois. J'ai prolongé la nuit et pensé à tout ça. Prolongé la nuit à du regard de tout bas.
Service public sur France Inter, le citoyen contre l'administration. Et une auditrice sur Internet nous dit « Est-il possible de faire un recours lorsque la faute en question concerne l'administration d'une prison ?» Vincent Lewandowski, vous qui représentez ici le défenseur des droits, lorsqu'on est dans une situation, cette fois-ci, de lieu de privation de liberté, on est malgré tout un citoyen. Ce citoyen peut-il saisir le défenseur des droits ? Y a-t-il des possibilités pour un prisonnier de se défendre ?
Alors, oui, alors je parle sous le contrôle de Paul Cassia, bien évidemment, puisque les décisions qui sont prises par la prison sont des décisions administratives qui, d'un point de vue juridique, peuvent faire l'objet d'un, selon la nature, soit d'un recours pour excès de pouvoir, enfin, à tout le moins, d'un recours devant le tribunal administratif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-elle saisir le défenseur des droits ? Oui. Pourquoi ? Parce que la privation de la liberté d'aller et venir n'entraîne pas la privation de la totalité des libertés fondamentales. Donc si un problème se pose avec le fonctionnement du service public, donc de l'administration, elle peut saisir le défenseur des droits, et notamment les délégués, puisque nous avons parmi nos délégués des gens qui interviennent en milieu carcéral.
Et nous avons Marie-Christine au standard. Bonjour Marie-Christine, nous vous écoutons Marie-Christine.
Oui, bonjour. Moi je téléphone pour un PV que nous avons reçu. On était stationné sur une place de, comment on appelle ça, de stationnement
De livraison. Ah, j'en étais sûr.
En fait, on n'a jamais vu de policier passer. On s'est simplement arrêté afin que ma fille puisse monter dans la voiture. C'est tout ce qu'on a fait. On est reparti quasiment aussitôt. Ah. Donc, on n'a jamais compris. En fait, on a envoyé un recommandé.
Donc, un policier furtif.
Ben voilà. On a envoyé un recommandé. Et la seule réponse qu'on a eue à ce sujet, c'est une amende majorée. Donc, au départ, c'est une amende de 35 euros qui est passée à 75 euros qu'on a dû payer.
Alors, lorsqu'on se retrouve victime d'une contravention que l'on conteste, car on a la possibilité de contester une contravention, Paul Cassia, parfois on peut avoir des contraventions injustes. Par exemple, je vois votre voiture qui est retirée en bas de la maison de la radio. Peut-être était-ce injuste, Paul Cassia.
Alors, si c'était injuste, je commence par payer la contravention et ensuite je la conteste. C'est toujours pareil. Il faut commencer par s'acquitter du montant que l'administration demande et ensuite le contester. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on pourra, le cas échéant, obtenir un remboursement. Pour ce qui est, tout à l'heure, ça a été évoqué par M. Lewandowski, de l'accès à la justice administrative, je souhaite souligner que celui-ci est gratuit. Que lorsqu'on conteste une décision de l'administration, là, dans la plupart des cas, la saisine du juge administratif est gratuite, ne coûte normalement rien. Donc c'est aussi un un avantage qu'il faut souligner.
Vincent Lewandowski, on se dit souvent malgré tout que le combat est inégal entre, par exemple, un policier qui vous inflige une contravention pour stationnement à tort, votre parole. Alors évidemment, quand c'est parole contre parole et que c'est la parole d'un citoyen contre la parole d'un représentant de l'ordre, comment faire ?
Alors, en matière de contravention, on reçoit énormément de réclamations, effectivement, avec une problématique récurrente qui est celle de l'apport de la preuve. Vous avez été verbalisé par un agent, donc, notamment pour les problématiques de stationnement, c'est effectivement votre parole contre celle de l'agent. Et souvent, vous n'êtes pas en mesure d'apporter la preuve que vous étiez correctement garé ou que vous n'étiez pas garé d'ailleurs à cet endroit, puisque ça arrive pour le coup. En revanche, l'apport de la preuve contraire pour des excès de vitesse, par exemple, ou lorsque vous continuez de recevoir des contraventions alors même que vous avez cédé votre véhicule, c'est un cas assez récurrent que l'on rencontre et un petit peu plus aisé. Apporter.
Nous avons un dernier auditeur, Jean-Louis, qui est au standard. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. Eh bien écoutez, moi je voulais tout d'abord témoigner que le délégué du Défenseur des droits est très efficace.
Ah,
pour,
il jubile.
Ah oui, non mais c'est vrai, voilà, alors il faut le dire. Le premier, c'est à propos d'un PV, justement, et là je voudrais tout de suite rectifier, je pense, une erreur qui vient d'être dite. C'est-à-dire que le PV, quand vous le recevez, on vous dit bien de ne pas le régler, parce que si vous le réglez, c'est réglé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus contester. Alors, moi, mon cas, c'était pareil, c'est un stationnement. J'avais un ticket qui était encore bon et on m'a verbalisé, voilà. Et donc, j'avais essayé d'écrire, j'ai jamais eu de réponse. La seule réponse, c'est là aussi une amende majorée. Et comme je répondais toujours pas, l'argent a même été retiré de mon compte en banque. Et j'ai eu beaucoup de peine à me le faire rembourser. Par contre, ayant saisi le délégué du droit, qui était d'ailleurs une déléguée des droits, le problème a été réglé devant moi. Elle a pris son téléphone, elle a appelé, je crois, l'OPM, je ne sais pas qui, et le problème a été réglé. Le deuxième, c'est avec Gaz de France.
Ah, vous avez beaucoup de problèmes, hein, Jean-Louis.
Comment ?
Vous avez beaucoup de problèmes aussi.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais qui abandonnent, si vous voulez. Qui se disent, comme vous l'avez déjà dit, qu'ils sont le pot de terre entre le pot de fer, donc ils ne font rien. Or, si je témoigne, c'est pour prouver que ça marche. Et je vais donc, avec GDF, on me réclamait de l'argent de manière indue. L'affaire a duré 5 ans. Mmh. Ils sont venus 4 fois me couper le gaz. La 4e fois, j'étais pas chez moi, donc ils l'ont fait. Donc j'ai rétabli le gaz. Et comme j'étais harcelé, vous voyez, j'ai saisi une déléguée des droits dans mon arrondissement. Et là aussi, le problème a été réglé. Si vous voulez, Gaz de France m'a fait gracieusement un geste commercial de 50 euros. C'est ridicule. Mais pour le moment...
Vous avez obtenu gain de cause, en tout cas. Et vous avez donc une histoire avec, à chaque fois, 2 réclamations. Des réclamations qui se soldent bien. Et évidemment, Vincent Lewandowski, vous qui représentez le Défenseur des droits, vous jubilez. Car on a eu la preuve par Jean-Louis que ça fonctionnait lorsqu'on saisit le Défenseur des droits.
Absolument, ça fonctionne même bien, donc vraiment j'engage tous les auditeurs qui rencontrent des difficultés en matière de service public à se tourner vers notre réseau de délégués, encore une fois, qui est gratuit. Et alors, petit point de droit, effectivement, s'agissant des contraventions, pour les PV de stationnement, si vous payez, c'est que vous avez accepté la contravention. En revanche, pour les PV de radar, donc de contrôle automatisé, effectivement, si vous voulez contester, vous êtes tenu de payer avant de contester.
Donc on le voit, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Le citoyen n'est pas complètement démuni contre l'administration. Il a la possibilité également de se tourner vers la société que vous représentez ici, Estelle Guilherme, Familizen, Paul Cassial. Le choc de simplification, en un mot, il reste encore... À venir, on peut encore simplifier le choc de simplification.
Alors, la simplification, elle concerne les mesures administratives. C'est par exemple la possibilité de payer une amende par Internet. C'est par exemple la possibilité de saisir l'administration par Internet. Mais cette simplification administrative, elle se double d'une complexification du droit qui vient en réduire les effets. Les textes sont de plus en plus touffus, de plus en plus compliqués. Il y a un an, le Parlement a adopté une loi qui s'appelle loi Allure, qui fait plus de 100 pages au journal officiel, qui est totalement illisible. On débat actuellement de la loi Macron, qui comporte une centaine d'articles sur tous les sujets possibles et imaginables, et qui vient ici rendre un peu inutile la simplification administrative prônée par ailleurs.
Eh ben, c'est au moins une bonne nouvelle pour vous, Paul Cassia, qui est professeur de droit, une mauvaise pour Nagui, qui va devoir lire ses centaines de pages sur la loi Allure pour ne pas être en infraction. Nagui, ça va ?
Très bien, merci. On a presque Robin Desbois qui sera presque tout à l'heure avec nous, Géraldine Nakache et Max Boublil dans la bande originale.
C'est une sorte de défenseur des droits, hein, en quelque sorte, Robin Desbois.
Il vole à tout le monde, celui-là, les riches et aux pauvres.
On va vous écouter tout de suite après le flash, Nagui. À tout à l'heure.